Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. 4 ans après le coup de force de Moscou, la Crimée a pris part dimanche dernier à l'élection présidentielle russe et Vladimir Poutine y a remporté un score écrasant avec plus de 90% des voix récoltées. Sur la péninsule, le président russe bénéficie d'une réelle popularité. La population de Crimée continue de soutenir majoritairement son appartenance à la Russie, non reconnue par le droit international. Mais les voix contestataires, elles, sont réduites au silence. L'OSCE a mené une enquête sur la péninsule où elle a recensé de nombreux cas de violation des droits de l'homme. Perquisitions, surveillance, poursuites judiciaires sont le sort réservé aux individus hostiles à l'autorité de Moscou. C'est le reportage d'Étienne Bouche.
Dans la vieille ville de Bakhchissaraï, il faut passer la porte d'un restaurant pour trouver un peu d'animation. Il est tard, les rues sont désertes. Bakhchissaraï est le cœur historique de la culture tatare en Crimée. Les Tatars ont très majoritairement désapprouvé la prise de contrôle de la péninsule par la Russie. 4 ans plus tard, il flotte ici une atmosphère de tension. Les gens ne souhaitent pas s'exprimer sur la situation politique. Dans l'intimité d'une mosquée, un fidèle accepte de témoigner. La prière du soir vient de se terminer.
Les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent, et ça c'est un problème. Mettons que je sois un commerçant indépendant, le directeur du marché va venir me voir pour me demander si j'ai l'intention d'aller voter. Si je réponds non, il y aura forcément des conséquences. On me mettra la pression d'une manière ou d'une autre, et on m'éjectera du marché. On dira que ça n'a pas de rapport, que la direction n'y est pour rien, mais le climat est tel qu'on me chassera quand même. C'est un problème que nous n'avions pas auparavant.
Sur la péninsule, les vainqueurs dictent leurs règles aux vaincus. Ceux qui contestent l'autorité de Moscou font l'objet de pressions judiciaires. Le fait d'affirmer par exemple que la Crimée est ukrainienne vaut poursuite pour appel au séparatisme. Alexei Ladine est membre du réseau international Agora. Cet avocat de 43 ans ressort d'une audience à Simferopol. Son client est accusé d'incitation à la haine à l'égard des Russes. La justice reproche à ce tatar des messages diffusés sur un groupe de discussion d'une application téléphonique. Sa détention préventive vient d'être prolongée pour un 3e mois. Il risque jusqu'à 5 ans de prison.
C'est l'un de ces articles de loi sur l'extrémisme qui, j'en suis convaincu, servent d'instrument de pression contre les activistes, en l'occurrence les Tatars de Crimée, les militants politiques. Ces articles permettent d'engager des poursuites et de les faire taire. Dans ce genre d'affaires, des experts linguistiques doivent établir si les articles en question s'appliquent. Mais comme ce sont en fait des agents du FSB et du ministère de la Justice, il y a de fortes chances que l'on établisse les conclusions opportunes.
Alexei travaille actuellement sur 7 autres affaires plus ou moins similaires. Depuis 4 ans, le FSB pratique activement écoute et perquisition. Les services de sécurité russes surveillent surtout le contenu des publications sur Internet. Émile Courbédinov est une figure influente de la communauté tatare. Il est avocat lui aussi et s'est spécialisé dans ce genre d'affaires. Organisation interdite, littérature prohibée. Dans son cabinet de Simferopol, il raconte la manière dont la justice russe tente de mettre au pas les Tatars qui ont gardé de l'époque soviétique un sérieux contentieux avec la Russie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline a ordonné la déportation du peuple tatar en Asie centrale. L'assemblée traditionnelle des Tatars de Crimée, le Medjlis, a été contraint de disparaître de la péninsule.
En 2014, Poutine en personne a appelé le président du Medjlis, Mustapha Djemiliev, et lui a proposé de travailler avec lui pour s'adapter à la nouvelle réalité russe. Djemiliev a refusé. Et quelques années plus tard, la Russie a étiqueté cette organisation comme extrémiste. Voici l'exemple qui illustre parfaitement le fait que ceux qui gênent le pouvoir et s'opposent à lui deviennent aussitôt extrémistes. En Russie, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme s'est transformée en un instrument destiné à traquer l'opposition.
Face à l'offensive judiciaire, un collectif tatar a vu le jour l'année dernière. Solidarité criméenne regroupait au départ les familles de personnes se trouvant dans le viseur des autorités. Le mouvement a depuis pris de l'ampleur et se réunit chaque mois pour réfléchir à des moyens d'action. Au bord de la mer Noire, les habitants de Sébastopol se déplacent pour participer à l'élection présidentielle russe. L'ambiance générale est soviétique et kafkaïenne. tout comme le résultat obtenu par Poutine dans cette place forte des humeurs pro-russes. David Axelrod est journaliste indépendant. Pour lui, il ne fait pas de doute que la population locale est favorable à Vladimir Poutine. Il précise que la répression judiciaire ne vise pas exclusivement les Tatars, dont la communauté est active et organisée. Ce mois-ci, les services de sécurité ont par exemple procédé à plusieurs arrestations dans les milieux communistes et anarchistes de Sébastopol.
La situation ici est tout simplement conforme à celle du pays en général. La Crimée, comme territoire russe de facto, s'est fondue dans ce système. Je n'y vois rien de surprenant. Bien sûr, la situation est plus rude ici qu'à Moscou. Mais si l'on regarde comment cela se passe en province, dans les républiques du Caucase par exemple, l'atmosphère politique est toujours plus dure, loin du centre.
Sous la pression des nouvelles autorités, certains ont décidé de quitter la Crimée. Mais pour les Tatars, qui sont revenus sur la péninsule dans les années 80, cette idée est généralement exclue.
Écoliers disparus dans la nature. Une statistique étrange, un chiffre constaté à la rentrée dernière en Bulgarie. Et malgré une politique volontariste pour ramener ses enfants à l'école, 8 mois plus tard, 90% de ses élèves manquent toujours à l'appel. Damien Vodenicharov nous en dit plus.
C'était à la rentrée en septembre. Le ministère de l'Éducation promettait de ramener à l'école les 200 000 enfants qui avaient déserté les salles de classe et dont on était sans nouvelles. Des équipes de policiers, de services sociaux et d'enseignants devaient faire le tour des dernières adresses connues des élèves pour ramener leurs parents à la raison et les convaincre de rescolariser leurs enfants. 6 mois plus tard, près de 22 000 enfants et mineurs âgés de 5 à 18 ans sont de retour en classe, soit à peu près 11%. Ces chiffres sont pourtant relatifs. Depuis la mise en place du programme de rescolarisation, près de 6 000 élèves ne fréquentent plus les établissements scolaires. Une très grande partie des 200 000 élèves non scolarisés se trouveraient en fait à l'étranger, et c'est là que l'administration perd leurs traces. D'après l'Institut national de statistique, 16 000 enfants ont été exclus du système scolaire pendant l'année scolaire 2016-2017. Près de la moitié résiderait en fait à l'étranger. D'après le ministère de l'Éducation, moins de 2 parents sur 10 seraient prêts à laisser leurs enfants repartir à l'école. Outre l'émigration, cette sortie du système scolaire est due également au mariage précoce et aux grossesses chez les adolescentes. Pour combattre cet absentéisme, les autorités ont lié l'obtention des allocations familiales à la présence des enfants à l'école, faute de se voir privés d'allocations pendant 2 mois. En cas de récidive, la période est étendue à 2 ans. 8500 foyers ont ainsi été pénalisés en 2018. Le gouvernement compte durcir encore les sanctions, voire criminaliser la déscolarisation forcée.
Depuis 5 ans, l'Europe est distancée par la Chine, les États-Unis ou le Japon dans la course aux supercalculateurs les plus puissants. Il y a donc urgence à réagir. L'Union européenne va investir 1 milliard d'euros d'ici 2020 dans ces superordinateurs indispensables dans nombre de domaines comme l'intelligence artificielle, la santé, le climat ou la cybersécurité. La France, l'Allemagne, la Suisse en disposent déjà et la Belgique possède 2 installations, certes moins puissantes mais néanmoins impressionnantes. Myriam Bell est allée voir l'un de ses super calculateurs à Charleroi.
Un enclos grillagé à l'extérieur, derrière la grille, un imposant système d'aération et un simple conteneur blanc.
Alors, ça ressemble à un conteneur de chantier, mais effectivement, ce qui est dedans est peut-être un peu plus valorisable. Ce sont des armoires, un peu comme des dressings, va-t-on dire.
On peut aller voir ?
Oui, bien sûr, on va visiter. Et dans ces armoires, donc, vous retrouvez l'ensemble des composants donc, du supercalculateur, donc essentiellement tout un ensemble de processeurs avec tout un système technologique qui va l'accompagner. Et je vous propose de rentrer à ce point.
C'est Cécile Goffaut qui s'apprête à pousser la porte du conteneur. Elle travaille pour le centre de recherche en aéronautique, le CNAERO, qui héberge le superordinateur. On va entrer, gare aux oreilles. Sous ces dehors bruyants et grossiers, l'équipement de ce conteneur est performant. L'équivalent de 14 000 ordinateurs, il est occupé à calculer, comme il le fait 24 heures sur 24, jusqu'à 400 000 milliards de calculs à la seconde. Mais pour qui ?
Sur la machine spécifique que vous avez ici à Charleroi, vous avez une grande majorité d'utilisateurs qui sont des chercheurs, donc dans les universités. Entre 60 et 70% d'utilisation donc, est dédiée à la recherche fondamentale, notamment dans la science des matériaux, pour n'en citer qu'une. Les 30 autres % d'utilisation de la machine prennent un caractère plutôt industriel pour des besoins de conception, de nouveaux produits et de nouveaux procédés.
Ces calculs aident à faire progresser la recherche en biologie, chimie, agroalimentaire, météo, et ils aident des industriels à concevoir de nouveaux produits. Exemple à Herstal, région de Liège, entreprise Safran Aérobooster.
Oui, ici on fabrique les différents composants du compresseur basse pression.
C'est une pièce de moteur d'avion.
C'est un module, un sous-ensemble du turboréacteur.
Luigi y assemble un module rond qui fait la moitié de sa taille. Un booster, c'est une partie de réacteur d'avion. Ses gestes sont précis, l'atelier est toujours propre. D'ailleurs, à l'entrée, des affiches rappellent que certains petits objets sont interdits, comme les bijoux. Rien ne peut s'égarer, entraver le passage de l'air dans ces mécaniques de réacteur. Dans les bureaux de l'entreprise, on trouve la même minutie dès la conception des pièces. Le trajet de l'air a été imaginé, calculé en chaque petit point du module grâce au superordinateur de Gosselies. Avant de développer un nouveau modèle ici, l'entreprise se livre à un premier test virtuel, 6 mois de calcul environ, et c'est un gain de temps. Les tests en atelier ensuite seront moins longs qu'auparavant. Jean-François Cortekis, directeur technique.
Ce que nous cherchons ici, c'est à optimiser en particulier ce qui est le plus complexe, c'est l'écoulement de l'air à travers ce compresseur. Avant, ça se faisait de façon tout à fait empirique dans des souffleries. Ces tests, ça demande beaucoup de temps entre le moment de la conception où on fait un choix au niveau de la géométrie des pièces, puis il faut lancer la réalisation de ces pièces, et après il faut réaliser les essais et les dépouiller. Donc on est dans un cycle qui représente à peu près quelques années. Avec ce que nous mettons en place à côté, la simulation numérique, nous pouvons nous permettre de tester plusieurs configurations en l'espace de quelques mois.
Et cette vitesse est indispensable, dit-il, pour faire face à la concurrence féroce dans le secteur. Il voit d'un bon œil l'initiative européenne. Aujourd'hui, certains calculs excèdent déjà les capacités des ordinateurs belges et il les confie alors aux ordinateurs plus puissants encore en France, en Allemagne ou en Suisse.
Have you ever been forced to place the fate of your life in the hands of a complete stranger?
Alors que les images de la crise des réfugiés se font plus rares sur nos écrans, un Grec a choisi de ne pas les laisser tomber dans l'oubli. Avec son collectif Asclepion, Vassili Tsartsanis expose en ce moment son travail au théâtre d'Aubervilliers aux portes de Paris. The Small Room Project retrace l'odyssée des réfugiés depuis leur pays jusqu'à leur intégration pas toujours facile en Europe. Et le militant grec parle de choses vues à Idoménie, le village qui a vu passer près d'un million de personnes entre 2014 et 2005. Charlotte Sienard.
The Small Room Project ne devait pas être une exposition au départ, raconte Vassili Tsartsanis. Cet habitant d'Idoménie a simplement commencé à s'informer sur la crise des réfugiés quand il a vu qu'ils étaient de plus en plus nombreux à venir passer la frontière à quelques centaines de mètres de sa maison.
Certains m'ont dit que je rêvais quand je leur disais en septembre 2014 qu'il y avait 150 à 400 personnes chaque jour à la frontière grecque. J'ai donc été obligé de faire des photos et des vidéos pour attirer les autorités, mais aussi les ONG, les médias et les organisations internationales.
The Small Room is another small station of the drama of thousands persecuted men, women, elders and children.
Soutenu par ses comparses du collectif d'artistes grecs Asclepion, il part dans toute l'Europe, financé par la Open Society Foundation cette fois-ci. Il collecte les témoignages de ceux qu'il avait croisés à Idoménie. Il voit des Syriens souvent bloqués dans des procédures administratives sans fin. Il a alors l'idée de les faire participer au projet. Au théâtre de la commune d'Aubervilliers, on pourra donc voir notamment le travail de 6 dessinateurs réfugiés et d'un photographe, un voyage multimédia qui présentera leur odyssée commune. Le nom The Small Room Project est né de l'appel d'un réfugié prisonnier des passeurs.
Le nom Small Room est devenu évident quand un réfugié m'a appelé pour me dire que les passeurs l'avaient attrapé et le gardaient avec ses amis en otage. Il m'a décrit les petites pièces où ils étaient enfermés. Le titre évoque donc ce voyage sur la route des Balkans et de ces petites chambre de la honte au cœur de l'Europe.
C'est la carrière de l'Europe.
En plus de l'exposition, des discussions seront organisées avec les protagonistes et artistes afin de mieux comprendre ce voyage multimédia.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Alors, on fait connaissance aujourd'hui avec un trio suédois qui sort son deuxième album.
Eh oui, Hey Elbow, c'est un groupe formé à Stockholm en 2013 et qui doit son nom à un mouvement d'aérobic que ces trois jeunes gens ont appris avant un concert dans le public, tandis qu'ils attendaient l'arrivée sur scène de leur compatriote The Knife. Pour autant, la musique de Hey Elbow n'est pas particulièrement sportive ou sautillante. C'est une pop vaporeuse et enveloppante qui doit notamment sa singularité à la formation jazz de ses musiciens et à leur goût marqué pour l'improvisation. Au menu, sonorités synthétiques et cuivres associées au fil de chansons, aux tracés souvent rectilignes, mais parfois plus sinueux, comme l'a bien nommé Nocturnal, cet extrait de leur deuxième album, Co-Co-Co, qui vient de paraître.
Avec les voix vaporeuses des Suédois de Hey Elbow. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation. Il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Et pour nous écouter en direct à partir de lundi, c'est à 17h40 temps universel, toute cible. Ne zappez pas dans quelques instants le journal.
L'épopée.